Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Nous allons aborder le chapitre 16. Mais avant de lire le texte pour aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Matthieu, qui va nous aider à mieux comprendre le message qu'il contient. Matthieu, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Merci pour votre invitation.
Matthieu, avant de passer à notre lecture biblique, pouvez-vous nous parler du contexte de ce chapitre 16 dans le récit de l'Évangile de Marc ?
Oui, bien sûr. En fait, nous arrivons au tout dernier chapitre de l'Évangile de Marc. Rappelons-le, le chapitre 15 s'est terminé sur une note très sombre. Jésus-Christ fut crucifié, puis enseveli. On pouvait penser que c'était la fin du récit, mais il y avait une suite révélée dans le chapitre 16. Et ce chapitre contient une nouvelle merveilleuse et extraordinaire. Jésus-Christ est revenu de la mort à la vie. Il est ressuscité. La dernière fois, nous avons appris que Jésus, le ressuscité, a rencontré ses disciples à Jérusalem. À présent, Sandra nous lira la suite, les versets 15 à 18.
Et il leur dit : Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris.
Merci. Jésus-Christ est ressuscité et il charge ses disciples d'une mission importante.
C'est exact, Yann. Jésus demande à ses disciples d'aller partout dans le monde pour annoncer une bonne nouvelle, la nouvelle que Jésus est ressuscité avec tout ce que cela signifie et implique. Les autres évangélistes, Matthieu, Luc et Jean, relatent tous à leur façon ce même événement. Jésus confie à ses disciples la responsabilité d'annoncer à tous un message extraordinaire et réjouissant.
Matthieu, lors de nos deux dernières émissions, nous avons appris que les disciples étaient apeurés et incrédules. On pourrait alors penser que de telles personnes ne seraient jamais à la hauteur pour assumer la mission que Jésus leur confie.
Et pourtant, le livre des Actes des Apôtres et l'histoire de l'Église à travers les siècles nous le montrent bien. C'est à partir de cette petite poignée d'hommes et de femmes que le message de Jésus-Christ s'est répandu partout dans le monde. Je voudrais en tirer plusieurs leçons.
Je vous en prie.
D'abord, Jésus choisit des hommes et des femmes ordinaires, et il leur confie cette mission malgré leurs faiblesses et leurs défaillances, malgré leurs fautes passées. Les disciples étaient des gens d'arrière-plan modeste. La plupart manquaient d'éducation et de moyens matériels. Certains avaient un passé sombre et tortueux. D'autres sortaient d'une vie que l'élite religieuse aurait méprisée. Et pourtant, Jésus leur fait confiance. Il les charge d'une mission simple, de la responsabilité d'annoncer un message extraordinaire de la part de Dieu. Et aujourd'hui encore, Jésus confie cette mission à chacun de ses disciples, à tous ceux et celles qui croient au message de la résurrection et du pardon des péchés. Cette responsabilité n'est pas réservée aux personnes surdouées ou bien éduquées. Non. Quel que soit votre arrière-plan et vos circonstances, vous pouvez y participer. Il n'est pas nécessaire d'avoir acquis un certain niveau de maturité ou de formation avant de commencer. Vous pouvez parler simplement de Jésus autour de vous. Vous pouvez parler de Jésus à vos enfants, à votre famille élargie, aux voisins, aux collègues de travail et à d'autres encore. Vous accomplirez ainsi la mission que Jésus a confiée à son Église. Vous pouvez témoigner de Jésus, de la signification de sa mort et de sa résurrection, ou tout simplement dire aux autres ce que Jésus a fait pour vous. Parler de sa grâce, de son amour.
L'apôtre Paul confirme cela aussi. Dieu se sert surtout de gens modestes. ordinaires, voire faibles, pour accomplir ses desseins dans le monde.
Oui, citons un texte des écrits de Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 24 à 28.
Nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc votre situation, frère. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important.
En bref, par l'Évangile, Dieu désire renverser les valeurs humaines et mondaines. Dieu aime et donne de la valeur à ceux et celles que le monde a tendance à mépriser ou rejeter. Dieu désire nous remettre en question et nous montrer que les choses que nous considérons de la plus haute importance sont devenues des idoles trompeuses qui ont besoin d'être enlevées. Par ailleurs, si l'Évangile avance grâce aux gens modestes ou faibles et non pas grâce aux gens puissants et influents, cela prouve que c'est bien Dieu qui est à l'œuvre. Si la bonne nouvelle avance grâce aux gens modestes, nos regards doivent s'orienter vers un Dieu puissant qui fait grâce. Comme déclare l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, ce trésor, c'est-à-dire la gloire et la grâce de Christ, ce trésor nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité.
Merci pour ces encouragements à participer pleinement à la mission que Jésus nous confie, l'annonce de la bonne nouvelle. Mais quel est au juste le message de la bonne nouvelle, car Marc ne nous le dit pas dans ce texte?
C'est vrai, Yann. Marc insiste sur l'importance de ce message en déclarant que notre destin éternel en dépend. Celui qui croit au message, pour ensuite se faire baptiser, sera sauvé, mais celui qui n'y croit pas sera condamné.
Un choix est donc à faire, et ce choix est de la plus haute importance. Mais que faut-il croire?
Il est vrai que Marc ne nous le dit pas, mais Marc a écrit tout un évangile qui nous relate la vie de Jésus-Christ, son enseignement, ses miracles, sa compassion et son amour, sa mort et sa résurrection. Il me semble juste de dire que c'est en tout cela qu'il faut croire. En bref, il faut croire en Jésus. Il faut croire qu'il est le roi sauveur, l'envoyé de Dieu promis par les prophètes. Il faut croire en sa mort, croire qu'elle est le moyen choisi par Dieu pour obtenir le pardon de nos péchés et notre réconciliation avec Dieu le Père. Il faut croire en la résurrection de Jésus-Christ et en la promesse de la résurrection de tous ceux qui mettent leur espérance en lui. Le salut, c'est le pardon du péché et la réconciliation avec Dieu. Le salut, c'est également être délivré des puissances maléfiques. Le salut, c'est devenir héritier de la résurrection, de la nouvelle création et de la vie éternelle. L'enjeu est de taille, car ne pas croire en Jésus, c'est se priver de toutes ces merveilleuses bénédictions du salut. C'est demeurer sous la condamnation et se destiner au châtiment que nos fautes méritent.
Merci. Nous arrivons donc presque à la fin de l'évangile de Marc. Cher ami, nous ne savons pas si vous avez pu suivre toutes nos émissions à ce sujet, mais Marc insiste sur le fait que la résurrection de Jésus ne doit pas nous laisser indifférents. Soit nous y croyons, soit nous restons dans l'incrédulité. Chacun doit donc se décider et choisir que croire. Matthieu, parlons de ces signes et miracles qui, selon Marc, accompagneront ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Qu'en dites-vous ?
Oui, ces signes sont malheureusement le sujet de controverses parmi les églises, et comme vous le dites, nous n'avons pas suffisamment de temps pour en parler en profondeur. Je voudrais simplement faire quelques remarques et conseiller la prudence. D'abord, ces paroles ne constituent absolument pas une promesse affirmant que toute personne malade ou handicapée sera guérie, si seulement elle a la foi. Non, il ne s'agit pas d'une promesse universelle pour toute personne, tout individu, en tout temps. S'il y a une promesse, c'est que Dieu appuiera les témoignages oraux et écrits de la résurrection par des miracles quand il estimera que cela est nécessaire. Dieu est souverain et il intervient comme bon lui semble. Nous ne pouvons pas exiger des miracles de guérison de la part de Dieu. Ces paroles ne constituent pas non plus une formule magique. De même, nous ne pouvons pas limiter Dieu en affirmant qu'il ne fait plus de miracles de nos jours. Ensuite, ces miracles servent, selon Jésus, de signes. Autrement dit, ces miracles doivent orienter nos regards vers Jésus-Christ et non pas vers des hommes. Ces miracles appuient le message annoncé et authentifient les témoignages bibliques. Jésus est ressuscité, il est vivant et il agit. Ces miracles sont des signes qui le certifient, ni plus ni moins. Puis, ces signes orientent nos regards vers l'avenir de ceux et celles qui attendent le retour du Christ ressuscité. Dans cet âge présent, nous sommes constamment exposés à la maladie, aux puissances maléfiques, aux dangers divers et à la mort. Ces signes sont un rappel et une confirmation que quand nous ressusciterons à notre tour de la mort, nous serons entièrement délivrés de ces maux et de ces malheurs, non pas pour une courte durée, mais pour l'éternité. Enfin, il ne faut absolument pas jouer délibérément avec du poison ou des serpents en pensant que Dieu nous sauvera forcément du venin. Il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve ainsi. Même Jésus n'a jamais osé faire une démarche pareille. Dieu peut intervenir miraculeusement pour nous sauver de situations dangereuses que nous rencontrons, mais nous ne devons pas faire exprès de les chercher.
Merci Matthieu. Comment voulez-vous conclure notre discussion ?
Il est intéressant de noter dans les évangiles que souvent des gens demandent des signes et des miracles pour croire en Jésus. Mais quand ils voient, ils restent incrédules. Il est intéressant de noter dans les évangiles que souvent des gens demandent des signes et des miracles pour croire en Jésus. Mais quand ils en voient, ils restent incrédules. En fait, la résurrection de Jésus est le plus grand signe de tous. Croyez-y. Mettez votre confiance et votre espérance en Jésus-Christ ressuscité. Comme nous l'avons déjà dit, votre destin éternel en dépend.
Merci Matthieu pour cette exhortation à mettre sa foi en Jésus-Christ, le ressuscité. Chers amis, ne manquez pas notre prochaine émission, car ce sera notre toute dernière étude sur l'Évangile de Marc. Alors, au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.